Go, la review d'Ipress JB.
Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, PodCloud,
Deezer et YouTube.
C'est pas sexy Sarah ça?
C'est pas sexy choucroute Sarah ça?
Chaque matin, peu avant 7h, c'est encore mieux qu'un café.
J'ai la forme et je frétille comme une petite truite toute la journée.
Mercredi, nous sommes mercredi. Mercredi, celui qu'on avait coutume d'appeler le jour des enfants. Le mercredi a ceci de particulier qu'il nous emmène tout doucement vers la fin de semaine, puisqu'il ponctue, hein, je dirais littéralement, le milieu de cette semaine, nous rappelant qu'elle n'est pas tout à fait terminée, mais qu'on s'approche quand même, peu à peu, pas à pas, du dénouement. Bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de jeux vidéo chaque matin, mercredi, hein, pour revenir à ce jour magique. C'est aussi, concernant la revue de presse JV, la rubrique 100% Japon, avec une belle brochette de news, hein, 100% Nippon, mais ce n'est pas tout, car il y a d'autres sujets que je tenais à aborder ce matin, bref, un menu encore bien garni. Donc on s'accroche à son petit casque et c'est parti. Petite brochette de news, hein, pour commencer, chers amis. Tout d'abord, sachez que le PlayStation Now, alors vous savez, c'est le service, hein, de Sony de jeux, hein, en streaming, hein, un peu dans cette vague, hein, du Netflix du jeu vidéo dont on parle tant en ce moment, et ben le prix va baisser, et oui, c'est déjà une première réponse, hein, au Game Pass de Microsoft. Donc le PlayStation Now passe de 16,99€ par mois à 14,99€. Alors, ça fait un peu moins de 180€ par an pour accéder à un énorme catalogue de jeux en streaming comprenant plus de 500 titres PlayStation 3 et PlayStation 4. Je rappelle qu'il y a toujours une période d'essai de 7 jours. Ça, c'est idéal pour tester sa connexion, hein, puisque je le rappelle, c'est du streaming, hein. On ne télécharge pas les jeux sur son disque dur. On nous promet aussi une interface revue et plus rapide. Et parmi les ajouts récents en matière de jeux, vous avez Fallout New Vegas, un gros morceau, NBA 2K16, Divinity Original Sin ou encore Guilty Gear 10 Revelator. Alors 10 ou X, alors je ne sais pas, je ne suis pas du tout spécialiste de Guilty Gear, mais je pense que les fans de jeux de baston, Vanifraise, hein, si tu m'écoutes, me corrigeront sans souci. On a appris aussi que Fear Effect Senna, donc qui signe, hein, le comeback de la licence Fear Effect, hein, bien connue à l'époque de la première PlayStation, est développé cette fois-ci, hein, par le studio Forever Entertainment, donc balance une bande-annonce. Et nous avons aussi la date de sortie qui est fixée donc le 6 mars, hein, de cette année sur PC, Mac, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Grande nouvelle, hein, pour les fans des Wonder Boy, surtout à tendance, hein, Monster World, hein, action-aventure, action-RPG. Monster Boy, hein, qu'on attend, qu'on n'en peut plus d'attendre, est annoncé enfin pour l'été prochain sur toutes les plateformes ou presque, hein, c'est-à-dire PC, Xbox One, Switch, PS4, etc. D'ailleurs, aux États-Unis, hein, il y aura un format boîte, hein, le jeu sortira en boîte sur Switch et PlayStation 4. Je rappelle que le jeu est réalisé donc en France avec la collaboration du créateur original de Wonder Boy, Ryuichi Nishizawa, et aussi avec le soutien de nombreux compositeurs japonais de renom. Bref, que du bonheur, hein. Personnellement, j'attends énormément ce nouveau Monster World, hein, puisque Monster Boy, hein, est le nouvel épisode, hein, des Monster World. C'est comme ça qu'il a été créé. Donc, j'ai hâte. Et enfin, sachez que selon différentes sources, hein, de Laura Kate Dale, hein, une journaliste, hein, pour le site Kotaku, Activision serait en train de développer dans son coin un remake de la trilogie Spyro le Dragon, célèbre jeu de plateforme, hein, signé Insomniac Games, hein, qui a fait partie des hits, hein, de la PlayStation fut un temps. Donc, eh ben, apparemment, ce serait le grand retour après Crash Bandicoot, ce serait au tour de Spyro. S'étalant sur l'excellent ROM Game, un site de jeux vidéo rétro dont je vous ai déjà parlé, hein, maintes fois dans cette émission, que j'apprends qu'une web série créée par Arte Creative vient donc de sortir tous les épisodes, paf, d'un coup comme ça, c'est magique. Ça s'appelle Histories Creed, et donc ça nous parle de jeux vidéo et d'histoire. Alors le site ROM Game, hein, se pose la question, jeux vidéo, histoire font-ils bon ménage ? Et la réponse, hein, nous dit le site, se trouve sans doute dans les 10 épisodes de Histories Creed, la nouvelle web-série donc documentaire d'Arte Créative, qui explore donc la relation entre le jeu vidéo et l'histoire. Elle est l'œuvre de Benjamin Brio, connu sur YouTube hein, sous le pseudo Nota Bene, et a été réalisé par Régis Brochier. Tous les épisodes hein, peuvent être déjà visionnés. Rome Game nous dit donc, jouer au D-Day, à la Révolution française ou aux croisades, manette en main, c'est l'expérience d'un voyage dans le temps. Des millions de joueurs le ressentent chaque jour, devant des jeux toujours plus spectaculaires et finement conçus. Mais le réalisme de plus en plus fort des images et scènes produites par les consoles est-il compatible avec ce que les historiens savent vraiment du passé? Alors que les jeux historiques connaissent un succès toujours grandissant, les studios disent assumer les approximations. Mais pourquoi la rigueur n'est-elle pas le meilleur argument commercial? Et ça, c'est une réflexion qu'on pourrait tout à fait apposer également sur les grands films hollywoodiens. Bref, j'ai été jeter un œil sur cette web-série, je l'ai presque regardée intégralement au moment où je vous parle. Et Dieu sait que pour la réalisation de cette émission, je n'ai pas beaucoup de temps chaque jour hein, à consacrer, je dirais, à de la détente, voyez-vous. Alors, je connaissais déjà un petit peu le boulot de Benjamin Brio, donc alias un Nota Bene, pour avoir vu quelques vidéos sur sa chaîne YouTube. Mais j'ai trouvé le propos, l'habillage, la narration de ce web-docu absolument... au poil, vraiment, on est scotché du début jusqu'à la fin, qu'on soit d'accord ou pas avec les arguments avancés, c'est un travail finement réalisé. Je vous propose d'écouter tout de suite un petit extrait pour vous donner un petit peu la couleur de la chose.
Mes chers camarades, bien le bonjour. Le mec qui parle à l'écran, là, c'est moi. Ben, j'ai 29 ans, j'aime les longues balades en forêt, la raclette et le lancer de hache. Mais plus que tout, j'aime l'histoire et les jeux vidéo. L'histoire, j'en ai fait mon métier et depuis quelques années, je raconte sur YouTube des trucs sur la mythologie aztèque, la conquête de l'Ouest, la culotte du roi Dagobert, et je détaille même parfois la vie des pigeons au Moyen-Âge. Une passion qui m'est venue parce que tout petit, bien avant que je ne fréquente les bibliothèques, je suis tombé dans une marmite de jeux vidéo et j'y suis encore. Récemment, en jetant un regard nostalgique sur mon passé vidéoludique, je me suis rendu compte que j'avais parfois eu la sensation d'avoir appris des trucs, vrais ou faux, de m'être fait des idées sur une situation géopolitique via un simple scénario de jeu, d'avoir ingurgité tout un tas de références qui finalement ont participé à la vision que j'ai aujourd'hui du monde.
Paris, 1794. Chaque jour apporte son lot d'exécution.
Ton tour viendra, Robespierre.
D'Assassin's Creed à Wolfenstein, en passant par Medal of Honor, Battlefield ou Spec Ops The Line, de Edge of Mythology à World of Warcraft, la place de l'histoire dans le jeu vidéo soulève finalement beaucoup plus de questions que ce que l'on pourrait penser.
Bien sûr, hein, je vous mettrai tous les liens qui vont bien dans la description de cette émission. Pour terminer hein, sur cette news, j'aimerais aussi vous indiquer que Benjamin Brio a été invité hier matin dans une émission que j'aime beaucoup qui s'appelle L'Instant M. Hein, c'est l'émission média de France Inter, animée par la talentueuse Sonia De Villers. Et ça me donne une excuse, un prétexte pour diffuser un extrait de cette émission que j'écoute quasi quotidiennement. Petit extrait donc.
Une vraie émergence de jeux avec un discours militant, de jeux avec un discours politique, réellement, où le soldat doute, pour le coup, où le douanier laisse passer des migrants, enfin, où en fait on est confronté à un monde réel et non pas idéalisé au nom de la patrie. Donc c'est extrêmement intéressant. En fait, la question qui revient tout le temps dans le jeu, c'est qui parle ? D'où vient le jeu ? Qui parle ?
Oui, bien évidemment. Et c'est sûr qu'on ne peut pas taxer tous les jeux de faire de la propagande idéologique.
Non.
Mais forcément, les créateurs ont une idéologie qui vont laisser transparaître à un moment donné, malgré eux peut-être. Donc il y a ça aussi. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que il y a ces milieux des grosses productions, il y a le milieu indépendant, et les deux échangent beaucoup. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des jeux... Alors, peut-être en sortant un peu du cadre historique, quoique, on a des jeux comme Far Cry, qui est c'est une licence vraiment avec beaucoup de jeux, qui sont finalement très très critiques vis-à-vis de la pensée américaine, et c'est des jeux qui se vendent à des millions d'exemplaires, donc c'est assez encourageant.
Aucune excuse donc pour ne pas se jeter, d'autant plus que c'est gratuit vraiment sur cette web-série d'une qualité rare, c'est du bon boulot, donc encore bravo à Arte Créative, bravo à Benjamin Brio, bravo à Régis Brochier, il ne vous reste plus qu'à aller faire un tout petit clic pour savourer cette série. Et je pense que vous allez également apprécier. En tout cas, je serais étonné que ce soit le contraire. N'hésitez pas à me faire vos retours, comme d'habitude, hein, sur le Twitter de l'émission, @revuedepresse.jv, tout collé, sur le Discord, où nous discutons joyeusement tous ensemble. Ça pourrait être intéressant de débattre de cette web-série. Le lien est dans la description de l'émission. Bien sûr, comme d'habitude, il y a la page Facebook. Bref, si vous aimez les pigeons voyageurs ou les telex, les fax, c'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Et il est temps maintenant, je pense, de passer à la rubrique 100% Japon. Code Vein aura bien un mode multi, hein, c'est ce que nous apprend le site Gematsu. Alors, même si c'est un jeu d'action solo, hein, l'action RPG Code Vein, hein, de Bandai Namco aura quand même un zeste de multijoueur, puisque le site nous apprend qu'on peut envoyer un signal de détresse lors d'un donjon, par exemple, et un autre joueur pourra nous rejoindre, en plus, hein, d'un PNJ qui nous accompagne déjà en amont. Il faut quand même remplir certaines conditions, hein, pour que l'opération se fasse. Des conditions qui n'ont pas encore été précisées par l'éditeur, mais bon, on attend des news à ce niveau-là. Pour communiquer donc entre eux, hein, les joueurs pourront utiliser des annonces vocales, des autocollants, divers gestes pré-enregistrés, hein, par le jeu. En tout cas, je rappelle que Code Vein est quand même attendu, hein, cette année sur PC, PS4 et Xbox One, et que mine de rien, bah, ça a l'air toujours de plus en plus classe. Donc, bien sûr, hein, ça s'inspire un petit peu de Dark Souls pour certaines choses, pour d'autres, ça reprend un petit peu ce qui s'est fait dans les canons du genre, mais le jeu a l'air d'avoir une vraie identité. De toute façon, hein, je vous conseille de regarder les images via le lien qui sera dans la description de cette émission. Nous en avons aussi appris un petit peu plus, hein, sur Persona 3 et 5 Dancing. Là, c'est Siliconera, hein, qui nous apprend ça, qui nous rapporte, hein, les nouveautés concernant ces deux jeux de rythme d'Atlus, donc qui se basent, hein, sur Persona 3 et Persona 5. On a appris qu'il y aura un mode donc nommé Dancing, hein, où le joueur pourra débloquer la totalité des 25 morceaux que contiendra chaque jeu, et que 4 modes de difficulté, hein, devraient être proposés. Beaucoup de phases de dialogue, hein, avec les différents personnages, ça c'est pour renouer un petit peu avec les racines, hein, des Persona originaux, dirais-je, et donc la possibilité de débloquer divers events, hein, sous certaines conditions, et également de nouvelles tenues. Énormément d'images, hein, ont été dévoilées, de nouvelles images. Le lien, comme d'habitude, hein, sera dans la description de l'épisode. Et oui, vous ne le savez que trop bien. De Space Invaders à la réalité virtuelle, l'arcade au Japon fait le grand écart. Alors, le gros morceau de ce 100% Japon se base sur un article français, en l'occurrence, hein, de Gamecult. Alors, c'est vrai que d'habitude, hein, je vous donne surtout des news que je traduis moi-même sur des sites spécialisés US ou autres, hein, qui parlent d'actu japonaise et qui ont en général la primeur, hein, de toutes les bonnes infos qu'il faut avoir. Sauf que là, je trouve que Puyo a fait un excellent compte-rendu de la Japan Amusement Expo, hein, donc de 2018, qui s'est déroulée au Japon. Comme d'habitude, vous le savez, je ne retranscris pas l'intégralité du papier, hein. Je vous invite à aller lire ça après en détail. Mais enfin, tout de même, je vous ai gardé des gros, gros morceaux, car c'est tout simplement passionnant quand on s'intéresse au marché du jeu vidéo au Japon, et en l'occurrence, là, celui de l'arcade. Et donc, Puyo nous dit que ça s'est déroulé le week-end dernier, le rendez-vous désormais annuel dédié à l'arcade et aux machines de jeu. L'occasion, nous dit-il, hein, pour les différents acteurs de l'industrie de présenter les bornes qui animeront les salles dans les mois à venir sur un secteur qui, même moribond, mise avant tout sur des expériences difficiles, voire impossibles à reproduire chez soi. Alors, Puyo nous parle notamment de Space Invaders Frenzy, qui faisait partie des jeux mis en avant, hein, sur cette exposition, même si la commercialisation de la borne est imminente au Japon. 40 ans, hein, après le Space Invaders original, hein, signé Tomohiro Nishikado, il y a une très bonne bio, il me semble, chez Omake Books ou Pixenlove, j'ai un doute là sur le moment. Bref, vous me rectifierez, hein, dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Bref, il sera cette fois question, nous dit Puyo, de repousser la menace alien bien calée dans un des deux sièges baquets. On est évidemment évidemment bien loin des écrans fixes du meuble d'origine, face à un grand écran de 108 pouces avec un gros canon rouge orientable entre les mains pour mieux cibler les envahisseurs. Et parmi les dinosaures qui font leur comeback, il y a aussi ce bon vieux Pong dans sa version, nous dit-on, Table Pong Project, ce meuble design qui vient titiller la fibre nostalgique avec une finition remise au goût du jour, tout en offrant une contrepartie analogique, nous dit Pouillot. Ce sont en effet des capteurs aimantés sous la borne qui gouvernent les trajectoires du vrai faux curseur. Et en voyant les photos, ça a effectivement une sacrée tête. C'est assez joli, hein, y a pas d'autre mot. C'est assez séduisant. Bandai Namco a officialisé l'arrivée, donc courant 2018, d'un Mobile Suit Gundam Extreme VS2. Nous avons eu aussi du fait Grand Order, licence archi dominante sur mobile, nous précise GameCult, et donc qui va débouler en arcade. C'est l'ambition de Sega avec donc ce fait Grand Order Arcade, voilà, le bien nommé, désormais attendu donc pour la fin du mois de juillet au Japon, avec une phase de test également calée courant avril. L'une des boards, sensation, en tout cas les photos sont vraiment, vous verrez dans le lien, c'est assez impressionnant. C'est Square Enix qui l'a créé avec Starwing Paradox, qui mise, alors nous explique Pouillot, qui mise à la fois sur une borne spectaculaire et un design typé Japanimation. La borne est montée sur vérin, avec deux gros sticks sur les côtés et des vibrations incessantes pour mieux s'immerger dans l'action. Côté gameplay, c'est du multi 8 contre 8 en ligne, avec différents points stratégiques à conquérir, deux types de jouabilité, standard ou technique, et trois types de rôles à endosser, Assault, Vanguard ou Support. Et ça sort cet automne au Japon. Il y a aussi une borne assez rigolote, une borne VR Captain Tsubasa Moero Striker. Alors Captain Tsubasa, c'est le nom japonais de Liv et Tom. Ça se base sur le HTC Vive. Donc ça c'est rigolo quoi, d'essayer de marquer des buts à ce cher Thomas Price. Soul Reverse de Sega sera bientôt prêt pour un déploiement programmé le 22 février prochain au Japon. Imbibé de Dark Fantasy, nous dit Pouillot, comme d'autres Souls avant lui. Ce jeu tend à se rapprocher d'un MOBA vu à la troisième personne avec un gameplay de classe, des invocations de guerriers légendaires, à même le champ de bataille. Bref, ce sera du 10 contre 10. Ça promet de belles petites parties bien fun. Enfin, j'ai retenu dans ce compte-rendu de Pouillot un petit bilan que je trouve très intéressant, qui nous dit que face à la désaffection structurelle des salles d'arcade, les trois mastodontes du secteur que sont Sega, Konami et Bandai Namco ont décidé de s'accorder autour d'un même standard de paiement NFC. Les futurs Amusement IC Cards, comme on les appelle, mis en service l'été prochain, remplaceront avantageusement les passes individuelles de chacun. Et donc c'est pour accéder en différentes bornes, indistinctement de leurs fabricants. Ces cartes, nous dit Pouillot, donneront également accès aux différents services en ligne et aux informations stockées dans le cloud. Alors les stats, les skins, etc. Des passerelles, nous dit-on, censées faciliter l'expérience des utilisateurs et les inciter in fine à revenir plus régulièrement. Une info très importante, du coup, une sorte de mutualisation de services pour les trois grands acteurs de l'arcade au Japon. Donc je trouvais cette précision quand même très intéressante. Et ben, merci Pouillot pour ce dossier fort plaisant. Et donc je vous invite à le lire dans son intégralité, bien sûr, dès que possible. Et c'est ainsi qu'on s'achemine vers la fin de cette émission. Oui, je sais, c'est triste, mais que voulez-vous ? Ainsi va la vie. Et voilà, l'émission est terminée. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain matin comme d'habitude, peu avant 7h sur tous les flux et à partir de 8h sur Radio Bourrin. Bien sûr, n'hésitez pas à partager un maximum, à venir tailler le bout de gras avec moi sur le compte Twitter de l'émission @revuedepressejv, tout collé sur le Discord, le lien est dans la description de l'épisode, ou sur la page Facebook qui porte le nom de l'émission. Mettez-moi des petites étoiles sur iTunes si vous aimez l'émission, ça me fera super plaisir. Et d'aller voir la page Tipeee si vous voulez m'aider. J'ai vraiment besoin de vous propager la bonne parole. Encore merci pour votre soutien. Merci à tous les tipeurs. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition pleine de panache et de robustesse. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Allez, bye bye.